Vous écoutez, on lit pour vous.
Fini les klaxons à New York et cinq autres bonnes nouvelles. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 31 août 2025 dans la presse. Quel son émet un problème qui est réglé? C'est une question un peu idiote, je l'admets. Un problème réglé ne fait pas de bruit. Des problèmes se règlent chaque jour. Mais personne ne le réalise. Ça nous donne l'impression de vivre dans un monde en perpétuel désarroi où rien ne va jamais en s'améliorant. J'aimerais finir l'été en beauté en rétablissant un peu l'équilibre. Voici six bonnes nouvelles que vous avez peut-être ratées récemment. Homicide en baisse aux États-Unis. On en parle quand ça va mal, alors pourquoi ne pas en parler quand ça va bien? Les homicides ont diminué de 21% dans les grandes villes américaines au cours des trois premiers mois de 2025 par rapport à la même période, un an plus tôt, selon les données de la Major Cities Chiefs Association, MCCA. Le nombre de meurtres a, par exemple, chuté de 44% à Dallas, 58% à Denver, 82% à Honolulu et 54% à Minneapolis. Plusieurs hypothèses expliquent cette diminution, notamment une hausse des arrestations. Et ce n'est pas anecdotique. Après une hausse durant la pandémie, les taux nationaux de criminalité violente ont chuté en 2024 pour atteindre leur plus bas niveau en deux décennies, selon le FBI. Un riz à l'épreuve des sécheresses. Une des grandes avancées peu célébrées des dernières décennies est la hausse de la productivité agricole dans le monde. Ça a permis de soutenir une augmentation de la population terrestre sans que l'on assiste à des famines à grande échelle, comme plusieurs l'appréhendaient. Plus récent exemple de cette tendance, au Chili, l'Institut national de recherche agricole, INIA, vient de mettre au point par croisement une nouvelle variété de riz qui nécessite deux fois moins d'eau que les riz traditionnels et qui résiste aux chaleurs élevées. L'objectif est de faire du Chili un modèle pour les régions où on produit de grandes quantités de riz et où il y a des sécheresses, note une responsable du projet. C'est crucial, puisque le riz est l'aliment le plus consommé au monde. Des fenêtres plus isolantes que des murs. Plus votre maison possède de fenêtres, plus vos coûts en chauffage sont élevés. C'est que, selon les experts, les fenêtres perdent entre 10 et 20 fois plus d'énergie qu'un mur bien isolé. En utilisant des technologies développées par les écrans d'appareils électroniques comme les iPhones, des chercheurs américains viennent de mettre au point de nouvelles fenêtres plus isolantes que les murs qui les entourent, ce qui pourrait permettre d'économiser 25 milliards de dollars américains annuellement en coûts de chauffage, rien qu'aux États-Unis. Certaines versions de ces fenêtres peuvent même résister à des ouragans. Les fenêtres sont aussi plus légères que des fenêtres conventionnelles, mais coûtent 20% plus cher à fabriquer. Elles devraient être produites d'ici quelques années, selon le Wall Street Journal. Des accouchements plus sûrs en Sierra Leone. Les accouchements ont historiquement été des événements dangereux pour les femmes, selon les endroits et les époques, entre 1% et 10% des accouchements se soldaient par la mort de la mère. Par exemple, la mortalité maternelle à l'Hôtel Dieu à Paris atteignait 6,7% au XVIIIe siècle, selon l'Université Paris-Cité. Heureusement, le monde a connu une réduction de 40% de la mortalité maternelle depuis 2000, selon l'ONU. Cela est même perceptible dans les endroits les plus pauvres de la planète. Par exemple, le taux de mortalité maternelle lors des accouchements en Sierra Leone est passé de 1,8% en l'an 2000 à 0,4% aujourd'hui, une baisse de 75% selon les données d'Our World in Data. Cela est dû à un meilleur accès aux médicaments et à une formation plus poussée du personnel médical. La Chine pourrait vivre son pic de pétrole. La Chine, l'un des plus grands consommateurs d'énergie du monde, pourrait avoir atteint un pic de consommation de pétrole, croit l'Agence internationale de l'énergie, AIE. L'AIE entrevoit même la possibilité d'une légère baisse de la consommation pour 2025. Le fait que la croissance de la consommation de carburant en Chine se stabilise à ce stade précoce de son développement est sans précédent historique, a déclaré l'AIE dans un rapport plus tôt cette année. Cette baisse devrait s'accélérer à moyen terme, ce qui suffirait à générer un plateau de la demande totale de pétrole en Chine au cours de cette décennie. Une forte popularité des véhicules électriques, qui compte pour 50% des ventes de véhicules neufs, de même qu'une expansion des transports collectifs, notamment des trains à grande vitesse, sont en partie responsables de cette situation, selon Bloomberg. New York, sans klaxon. Depuis le début de l'année, la ville de New York a mis en place un système de tarification de la congestion qui impose des frais de 9 dollars US pour entrer dans le sud de Manhattan en automobile. Controversée à ses débuts, la formule est aujourd'hui considérée comme un succès. La vitesse moyenne des déplacements en voiture de la banlieue vers la ville est en hausse de 15%. Les transports collectifs ont vu une hausse de leur fréquentation et la pollution au CO2 est en baisse. Un des effets surprenants de la mesure a aussi été de réduire le problème du klaxonnement à New York. Du 5 janvier au 4 mars, des caméras automatisées surveillant le niveau de décibels au sud de la 60e rue à Manhattan n'ont produit aucun constat d'infraction pour usage excessif du klaxon, alors qu'elles en avaient produit 27 au cours de la même période, en 2024, selon le média indépendant The City. Une ville plus fluide, calme et où les gens sont moins stressés. Une bonne nouvelle qu'on ne passera pas sous silence dans cette rubrique consacrée au bonheur. C'était « Fini les klaxons à New York » et « Cinq autres bonnes nouvelles », un texte de Nicolas Bérubé, paru le 31 août 2025 dans la presse.
Comment avez-vous pu? Un texte de Christophe Chovanich, paru le 18 août 2025 dans la presse. Christophe Chovanich est professeur de sciences politiques au cégep John Abbott. Mon père est né en 1943 dans les décombres de Wuppertal, l'une des nombreuses villes allemandes méthodiquement détruites par les bombardiers de la Royal Air Force et de la US Air Force. Il était peu loquace sur son enfance. Comme des millions d'autres Allemands, il fut un réfugié dans son propre pays, un enfant en Ländershausen qui, de Wuppertal à Heidelberg, en passant par Düsseldorf, se déplaça avec sa mère au gré des bombardements, de l'avancée ou du recul de telle ou telle armée. De cette période, il ne reste qu'une photo de mon père et de son meilleur ami, tous deux âgés de 4 ou 5 ans, prise dans un champ de ruines. Ils avaient des visages hagards au milieu des gravats. Cette image me revient en tête chaque fois que je vois des enfants déambulant à travers les décombres de Gaza. La gifle. mon père me racontait souvent un souvenir d'enfance. Il avait 7 ans. L'âge de raison, dit-on. Ce jour-là, des soldats britanniques firent irruption dans sa classe de primaire. Ils installèrent un projecteur, tirèrent les rideaux et montrèrent des images de la libération des camps d'extermination. Quand la lumière revint, les enfants sortirent de la classe en silence. Mon père marcha longtemps avant de rentrer à la maison. À table, il s'assit face à ses parents et sa sœur. Le repas à peine commencé, il se leva, les fixa et demanda « Comment avez-vous pu ?» La gifle de son père fut sa seule réponse, suivie de l'ordre d'aller dans sa chambre. Mon grand-père était un homme bien, lui aussi pris au piège de la folie meurtrière nazie, mais, comme tant d'Allemands de sa génération, il voulait oublier. Oublier l'horreur des camps. Oublier les bombardements. Oublier l'ignominie génocidaire. La leçon d'histoire jamais retenue. À mon tour, durant mes années d'école primaire et secondaire, j'écoutais attentivement mes enseignants lorsqu'ils nous parlaient de l'Holocauste. Je me souviens des images terrifiantes du documentaire « Nuit et brouillard » d'Alain René. Je me souviens de ces corps décharnés. Je me souviens avoir eu honte de mes origines allemandes. La leçon d'histoire se terminait toujours par « Jamais plus ». Plus tard, à l'université, j'appris qu'au Vietnam, au Cambodge et au Laos, le gouvernement états-unien avait causé la mort de millions de civils. Je découvris les chiffres vertigineux des victimes des empires coloniaux européens. J'entendis parler pour la première fois des famines provoquées par le gouvernement britannique en Inde. Un ami algérien m'informa des massacres de Sétif. Ces carnages semblaient relégués aux notes de bas de page de la grande histoire. Jamais ils n'étaient désignés comme des génocides. Le mot n'était pas tabou, mais réservé à un usage précis, borné dans le temps. Pour ces autres massacres, le terme générique de crime de guerre semblait suffire. Bien que les centaines de milliers de morts au Rwanda en 1994 furent qualifiées, à juste titre, de génocide, de même que les 8000 Bosniaques exterminés à Srebrenica en 1995, j'en conclus que là où les grandes puissances occidentales avaient les mains ensanglantées, on éviterait toujours de parler de génocide. Les leçons d'histoire, en vérité, n'étaient jamais retenues. Le « jamais plus » n'avait pas empêché l'élimination méthodique de millions d'autres civils depuis la libération des camps en 1945. Le devoir de l'enseignant. Aujourd'hui, je me retrouve de l'autre côté du pupitre en tant qu'enseignant. Je refuse désormais de jouer le jeu des grandes puissances en évitant de nommer ce qui se passe à Gaza. Si le terme de génocide est de plus en plus utilisé dans les médias, nos chefs de gouvernement prennent soin de l'éviter. C'est le cas, par exemple, de Mark Carney ou bien encore d'Emmanuel Macron qui déclara ce sujet. Ce n'est pas à un responsable politique d'employer ce terme, c'est aux historiens de le faire en temps voulu. Ce dernier préféra évoquer un drame humanitaire. Mais l'horreur ne se dissout pas dans un euphémisme comme « crime de guerre », un terme édulcoré qui empêche de mesurer pleinement la gravité de ce qui se déroule en Palestine. L'extermination de Gaza se déroule en direct sur nos écrans. Si nous ne nommons pas la destruction méthodique de Gaza et de ses habitants pour ce qu'elle est, un génocide, une honte indélébile s'imprimera sur nos vies. Et lorsque votre enfant vous demandera « Comment avez-vous pu ?» Comment lui répondrez-vous? Par une gifle? Ce que nous taisons aujourd'hui, c'est nos enfants qui devront le crier demain. L'histoire retiendra moins les faits que le silence complice de celles et ceux qui les ont vus se produire. C'était « Comment avez-vous pu? » un texte de Christopher Chovanich, paru le 18 août 2025 dans La Presse.
Du cœur au ventre. Un texte de Maxime Bilodeau, paru le 21 août 2025 dans Québec Science. Dans un contexte où le nombre de maladies inflammatoires intestinales explose chez les plus jeunes, le docteur Prévost-Jean Chou améliore le parcours de soins de ce groupe particulier. Un diagnostic de maladie inflammatoire intestinale est toujours une mauvaise nouvelle, surtout durant l'enfance. À redouter, de terribles douleurs abdominales ainsi que, dans la foulée, les risques de carences nutritionnelles, d'anémie, d'un retard de croissance et d'une plus grande probabilité de développer un cancer colorectal. Hélas, l'incidence de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, toutes deux des affections chroniques, sont en forte hausse chez les jeunes. Cela est tout particulièrement vrai au Canada, qui est l'un des pays où l'on trouve les taux de maladies inflammatoires intestinales les plus élevés au monde. Depuis son arrivée au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine en 2011, le docteur Prévost-Jean Chou, clinicien et chercheur en gastro-entérologie pédiatrique, est témoin de cette flambée. Nous sommes passés d'une centaine de cas par année à environ 150. Dans un cas sur quatre, il s'agit d'un enfant de moins de 10 ans, ce qu'on voyait peu jadis, souligne le professeur au département de pédiatrie de l'Université de Montréal. Ses recherches sur les facteurs de risque environnementaux de ces maladies et l'amélioration des soins prodigués lui ont valu d'être reçu au sein du Collège de la Société royale du Canada en 2024, un tremplin formidable pour changer la société, se réjouit-il. Rendre les malades autonomes. Très tôt dans sa carrière, Prévost-Jean Chou remarque un curieux phénomène. Il lui semble en effet que les maladies inflammatoires intestinales sont plus fréquentes à des latitudes éloignées des tropiques. Une carence en vitamine D, synthétisée de manière naturelle sous l'action du soleil, serait-elle en cause? J'en avais à tout le moins l'intuition, car dans mon pays natal, le Cameroun, l'incidence de ces maladies est assez faible, mentionne-t-il. Des analyses sur une base de données comptant plus de 100 000 personnes confirment cette hypothèse. La supplémentation massive en vitamine D pourrait être bénéfique pour atténuer les symptômes de ces maladies. Parmi les autres facteurs de risque connus des maladies inflammatoires intestinales chez les enfants figurent notamment la prise d'antibiotiques, la consommation d'aliments hautement transformés et le mode de vie urbanisé. Autant de pistes à explorer pour mieux accompagner la jeune patientèle. La prise en charge précoce améliore le parcours de soins, souligne le pédiatre. Si elles sont bien traitées, ces maladies ont peu d'incidence sur la qualité et l'espérance de vie. Or, encore faut-il que les jeunes patients et patientes adhèrent au traitement. Les adolescents ont naturellement tendance à le délaisser quand ça va bien, regrette-t-il. Cette observation fait écho à une autre difficulté vécue par cette population, le passage aux soins adultes à 18 ans. Une mauvaise transition à cette étape clé peut se traduire par une faible observance thérapeutique suivie de rechutes, voire d'hospitalisation. C'est pourquoi l'équipe du Dr Jean Chou a collaboré au développement de l'application numérique InJoy, Intestinal Joy. Celle-ci permet aux jeunes de prendre en main leurs propres soins en évaluant leurs symptômes. l'outil comprend un agent conversationnel mu par l'intelligence artificielle et intégrera sous peu des recommandations en fonction du microbiome de l'utilisateur, précise le chercheur. Docteur Sourire. En parallèle de ses activités de clinicien-chercheur, le docteur Prévost-Jeantchou multiplie les implications sociales. Sur TikTok, il vulgarise avec bienveillance et ouverture sa spécialité médicale sous le surnom de « Docteur Sourire ». Ses vidéos, dont certaines frôlent la demi-heure, sont relayées à ses presque 420 000 abonnés. « Je crois beaucoup en cet idéal de recherche horizontale qui intègre certes le patient, mais aussi une multiplicité de visages », précise le pédiatre. Celui-ci a également mis sur pied en 2020 la Fondation Inspire, dont la mission consiste à favoriser la réussite scolaire des jeunes d'Afrique ou des Caraïbes âgés de 14 à 22 ans, notamment par un programme de mentorat. Sans surprise, ce personnage charismatique, animé par le bien commun, fait office de mentor auprès de plusieurs médecins et scientifiques en devenir. Parmi ce groupe, Chloé Vaccarino, étudiante en médecine à l'Université de Montréal, souffre elle-même de la maladie de Crohn. Au sein de l'équipe du Dr Jeantchou, elle étudie les liens entre différentes caractéristiques du corps, comme les pourcentages de masse grasse et de masse maigre, et les maladies inflammatoires intestinales. Malgré son emploi du temps surchargé, le Dr Prévost-Jeantchou trouve toujours le temps de nous appuyer dans notre propre recherche, confie-t-elle. Il est un peu le médecin que je souhaite devenir plus tard. C'était « Du cœur au ventre », un texte de Maxime Bilodeau, paru le 21 août 2025 dans Québec Science.
La Fondation Mastercard investit dans la guérison par l'éducation. Un texte de la rédaction paru le 9 septembre 2025 sur le site du Centre national pour la vérité et la réconciliation, CNVR. Le Centre national pour la vérité et la réconciliation est honoré de recevoir un don de 25 millions de dollars de la Fondation Mastercard. Cette contribution historique renforce la capacité du Centre à sensibiliser les jeunes de tout le Canada à la réconciliation par l'éducation. Au nom du Centre national pour la vérité et la réconciliation, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à Mastercard pour ce don généreux. Cette contribution est plus qu'un simple soutien financier. C'est une puissante reconnaissance des survivantes et des survivants de leur vérité et des enfants qui ne sont jamais rentrés à la maison après avoir fréquenté les pensionnats, a déclaré Stephanie Scott, directrice générale du CNVR. Grâce à ce partenariat, nous pourrons faire entendre les voix et la résilience des survivantes et des survivants à l'échelle internationale, en veillant à ce que le monde entier prenne connaissance de leurs déclarations et de leurs témoignages oraux. La réconciliation n'est pas un acte isolé, mais un parcours commun. Avec Mastercard à nos côtés, nous nous rapprochons d'un avenir fondé sur la vérité, la justice et l'espoir. Ce don renforcera la capacité du CNVR à faire progresser la réconciliation pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens grâce à l'éducation des enfants et des jeunes. En tant que dépositaire permanent des archives et des objets sacrés de la Commission de vérité et réconciliation, le Centre joue un rôle essentiel dans l'honneur rendu aux vérités des survivantes et des survivants et veille à ce qu'elles guident les générations actuelles et futures dans leur apprentissage, leur réflexion et leur action. Le Centre national pour la vérité et la réconciliation s'engage, jour après jour, dans le travail essentiel de protection et de préservation de la vérité sur l'expérience des pensionnats pour les survivantes et survivants et leurs familles, et pour permettre à toutes les personnes qui vivent au Canada d'agir en connaissance de cause en vue d'un avenir plus juste et plus équitable. Nous avons pris l'engagement auprès des jeunes autochtones de les accompagner dans la transformation de l'enseignement postsecondaire afin de les aider à mener une vie meilleure. Cette organisation exemplaire contribue à ce changement et à un pays plus fort pour chacune et chacun d'entre nous, dit Jennifer Brennan, directrice principale, Programme pour le Canada Fondation Mastercard. Le CNVR mobilise les jeunes grâce à des programmes éducatifs nationaux tels que la Semaine de la vérité et de la réconciliation, qui touche près d'un million d'élèves chaque année avec des ressources, des événements virtuels et du matériel pédagogique. Et Imaginez le Canada, un programme de leadership créatif qui donne aux jeunes les moyens d'envisager un avenir réconcilié. Grâce au soutien de généreux donateurs, dont la Fondation Mastercard, le CNVR rend hommage aux survivantes et aux survivants en tant que témoins vivants à l'aide de programmes éducatifs, d'archives et de programmes communautaires. Cela permet aux jeunes d'acquérir les connaissances requises pour pouvoir façonner un avenir meilleur pour tout le monde. L'investissement de la Fondation Mastercard marque le 10e anniversaire des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, un moment où toute la population du Canada est invitée à réfléchir aux progrès accomplis et à renouveler son engagement envers le travail urgent qui reste à faire. À propos du Centre national pour la vérité et la réconciliation, le CNVR a été créé afin de préserver le souvenir du régime des pensionnats autochtones au Canada et de ses répercussions durables. Grâce à ses archives, à ses activités éducatives et à ses mobilisations communautaires, le Centre rend hommage aux survivantes et survivants et à leurs familles, favorise la réconciliation et fait progresser le travail continu de recherche de la vérité à l'échelle nationale et internationale. À propos de la Fondation Mastercard, la Fondation Mastercard est l'une des plus grandes fondations au monde. Elle collabore avec des organisations visionnaires pour faire progresser l'éducation et l'inclusion financière, afin de permettre aux jeunes en Afrique et aux jeunes autochtones au Canada d'accéder à un travail digne et épanouissant. Sa stratégie « Élève » aide 100 000 jeunes autochtones au Canada à terminer leurs études et à faire la transition vers un travail valorisant, en accord avec leurs traditions, leurs valeurs et leurs aspirations. C'était « La Fondation Mastercard investit dans la guérison par l'éducation », un texte de la rédaction paru le 9 septembre 2025 sur le site du Centre national pour la vérité et la réconciliation, CNVR.